Simon Matédoret.
Soyez les bienvenus dans Altitude en direct comme chaque dimanche. Ce dimanche, Pascal, semi-confiné, la montagne nous apparaît plus que jamais à nous urbains, pour ceux qui le sommes, comme une terre promise, un environnement qui s'est éloigné, que l'on ne touche plus comme avant, mais qui reste présent dans notre regard, dans nos âmes et dans nos cœurs. C'est pour cette raison que nous avons décidé tous les dimanches de continuer de vous parler d'elle, cette montagne, et de notre rapport à elle. Notre invité du jour est un homme qui la parcourt avec avidité, parfois avec le chronomètre au poignet, parfois sans. Il est alpiniste, compétiteur, psychologue du sport, fondateur de l'Académie de coaching éthique. Il nous expliquera tout à l'heure de quoi il s'agit. Le plaisir de vous accueillir dans cette émission, Romain Ducret, bonjour.
Bonjour, c'est mon matin doré.
Merci.
Comment allez-vous?
Bah, ça va pas trop mal, écoutez. Et j'ai envie de vous demander, et vous, comment ça va? Vous êtes évidemment par téléphone jusqu'à 18h. J'imagine que vous vous êtes confortablement assis dans un fauteuil, dans un canapé. Est-ce que vous voyez des montagnes de votre fenêtre?
Alors oui, je vois les montagnes, c'est des petites montagnes, mais comme je le dis toujours, les petites montagnes sont tout aussi belles que les toutes hautes montagnes.
Ah bah vous allez nous raconter pourquoi, effectivement, je confirme, je suis d'accord avec vous. Vous nous expliquerez durant cette heure votre amour des cimes. Vous auriez dû participer dans quelques semaines à votre 19e patrouille des glaciers, vous les avez d'ailleurs toutes courues sans interruption depuis 1984. Belle longévité, belle fidélité, belle endurance qui force le respect. Vers 17h45, ce sera la chronique de Joël Rebeté qui nous parlera précisément de montagne et de confinement. Quelles sont les règles à observer?
Altitude.
Alors, midi 22, on arrive sous le grand soleil. Comment est-ce qu'on se sent?
Fatigué.
Heureux mais fatigué.
Heureux mais fatigué, ouais.
Et l'objectif?
On n'avait pas d'objectif tant, le but c'est d'arriver au bout.
Et là, heureux, quand on franchit la ligne,
toujours.
Encore une patrouille de plus.
Toujours
après
heureux.
toutes ces patrouilles faites, il y a encore un petit quelque chose ou...
Toujours, ouais. Surtout que j'étais plus faible et puis on avait un superbe esprit d'équipe.
Il y a eu des moments un peu plus difficiles ou on a été à son rythme
et puis non, ça... on a eu des moments difficiles. Hein. La montée du saut, c'était en gelé. Hein.
Voilà, la montée du Stockj qui fait référence au parcours Zermatt-Verbier, la grande patrouille des glaciers. On remercie au passage nos collègues de La Liberté de Fribourg pour nous avoir permis d'autoriser cette archive qui a été faite par eux. Vous vous reconnaissez, Romain Ducret?
Ah oui, je me reconnais tout à fait. J'arrive à revivre intensément ce moment d'arrivée à la patrouille des glaciers 2018 où on avait une équipe avec une énorme camaraderie et du reste, mes deux coéquipiers avec qui je fais beaucoup de montagne et d'alpinisme qui sont bien plus jeunes que moi m'ont beaucoup aidé aussi pendant le parcours.
Vous êtes auto-attribué le rôle de maillon faible, c'est vraiment?
Disons oui, avec l'âge, c'est clair que il faut le dire ouvertement, j'étais le plus faible hein, de l'équipe. Comme j'ai dit, il y avait une différence d'âge. Mais voilà, c'était compensé par cet esprit d'équipe et de camaraderie durant tout le parcours.
Romain Ducret, puisque vous parlez d'âge, bon ben allons-y.
Allons-y,
vous avez la petite soixantaine, 61, 62. Est-ce que vous sentez le poids des années ou pas vraiment?
Alors, franchement, je ne le sens pas ou pas du tout, et je pense que c'est beaucoup dans la tête que ça se passe, et souvent, mes amis me disent, toi, tu es encore toujours un gamin, donc je ne sens pas trop le poids des années, donc ça me fait plaisir.
Dans la tête, vous le sentez pas, et dans les jambes?
Dans les jambes, non plus. Je fais quelquefois des petits tests sur des montées où j'ai noté un peu des temps de référence. C'est juste pour voir où je me situe. Et j'ai vu que, par exemple, cet hiver, sur les différentes montées où j'ai fait ces petits tests, j'avais vraiment des temps qui étaient des fois même en dessous de mes temps records. Donc, j'étais très content.
À 62 ans, non mais, à 62 ans, vous êtes en dessous de vos temps records. C'est-à-dire que vous avez dû établir quand vous aviez, je sais pas, 30, 40, 45 ans, c'est ça?
Oui, c'est vrai, sauf que peut-être que ces deux dernières années, j'ai toujours beaucoup travaillé professionnellement, et ces deux dernières années, je travaille toujours beaucoup, mais un tout petit peu moins, donc peut-être aussi que je peux me reposer un peu plus, c'est peut-être une explication parmi tant d'autres.
Bon, on aura toute une heure pour en parler, des autres explications physiologiques, psychologiques, vous êtes psychologue du sport, vous êtes coach, peut-être que vous avez dû investiguer aussi de ce côté-là, mais vous avez quand même un petit secret, une petite potion magique, Romain Ducret ?
J'ai pas de potion magique, mais je suis convaincu qu'avec la motivation, du reste je vais reprendre le dicton, avec la motivation on peut déplacer des montagnes, et moi j'ai toujours une grande motivation, et je le dis toujours, la montagne c'est pas du tout un hobby, c'est une passion, et avec la motivation, je suis sûr qu'on peut faire beaucoup beaucoup de choses, et j'ai tellement de motivation de me retrouver en montagne et de me dépasser dans des épreuves comme la patrouille des glaciers ou d'autres, et ça c'est peut-être de nouveau une explication parmi d'autres.
Donc votre motivation est intacte? Et peut-être même plus grande.
Bah, c'est étonnant, j'ai l'impression que plus je grandis en âge, plus ma passion grandit aussi. Et c'est vraiment génial.
Bon, vous ne faites évidemment pas que de la course chronométrée, vous faites beaucoup d'alpinisme, du ski, de randonnée, de la course, etc. Vous êtes quelqu'un qui aimait la montagne dans sa globalité. Vous êtes le seul... Enfin, je vous pose la question parce que je crois que la réponse n'est pas très claire. On dit que vous êtes le seul à avoir participé à toutes les patrouilles des glaciers depuis le redémarrage de 1984. Est-ce que vous en savez quelque chose ?
J'ai jamais moi-même été fouiller les statistiques de la patrouille des glaciers parce que j'ai pas fait toutes les patrouilles des glaciers pour arriver à cet objectif-là. Mais j'ai tellement entendu souvent, vous êtes le seul à avoir fait la patrouille par des journalistes, par des membres, des gens qui ont travaillé pour la patrouille. Mais en fait, voilà, il y a aucune certitude et je serais tellement heureux si par hasard il y a des gens qui nous écoutent aujourd'hui et qui auraient aussi fait toutes les patrouilles que ces personnes-là s'annoncent parce que j'aurais énormément de plaisir que je suis pas le seul et je pourrais aussi partager peut-être énormément de plaisir avec ces personnes-là.
Ben voilà, Romain Ducret, on peut lancer cet appel sur nos ondes en direct à 17h10 dans Altitude. Si jamais d'autres personnes les ont toutes faites, qu'ils s'annoncent à, on peut donner le mail de l'émission altitude@rts.ch. Voilà, altitude avec un S. Hein, donc voilà, je vous ferai suivre, Romain Ducret. C'est pas trop dur de ne pas courir celle de cette année. Nous étions avec son commandant il y a quelques jours, Daniel Joliet. Vous qui aimez, et on en parlera, vous qui aimez vous inspirez de la philosophie antique des philosophes grecs, vous prenez cet arrêt, cette mise en parenthèse, cette mise en quarantaine, comment ? Avec philosophie, j'imagine ?
Alors je prends ça avec beaucoup de recul. Concernant la patrouille des glaciers, je dis toujours, les montagnes restent à la même place. Et je suis aussi convaincu que lorsqu'on se prépare pour la patrouille des glaciers, l'idéal, c'est la patrouille des glaciers, c'est le dessert en fin de saison. Par contre, l'idéal, c'est de se faire un énorme plaisir durant toutes les sorties durant l'hiver. Et du reste, je parle jamais d'entraînement, je parle plutôt de sortie. Alors évidemment qu'il y a une petite déception pour cette année, puisque je devais faire partie d'une équipe qui était assez spéciale, donc qui était une patrouille intergénérationnelle et une patrouille mixte. Donc ça, ça aurait été, puisque chaque patrouille est différente, ça aurait été le côté vraiment très très sympathique de pouvoir réaliser cette patrouille avec mes deux coéquipiers. Donc avec une jeune dame qui habite Zermatt et qui va faire son cours d'aspirant guide qui s'appelle Jenna, et un ancien coéquipier que j'ai retrouvé pour la patrouille des glaciers, avec qui j'avais fait plusieurs manches de la Coupe Suisse et qui s'appelle Patrick.
Bah on les salue, ils nous écoutent peut-être, comme quoi c'est d'abord une histoire évidemment d'amitié, une histoire humaine, avant bien sûr de se confronter à son propre chronomètre, et vous nous direz quel rapport vous avez, Romain Ducret, avec le chronomètre dans un instant. Vous êtes fribourgeois, on a évidemment, pour commencer, choisi une chanteuse fribourgeoise, Pony Del Sol. Lighting. Virgo de Pony del Sol Virgo comme la virginité des montagnes qu'ils redeviennent voilà par la force du confinement. Nous sommes en direct dans Altitude à 17h16 avec Romain Ducret jusqu'à 18h tranquillement installé dans son canapé face aux petites montagnes parce qu'il aime aussi les petites montagnes sinon les grandes bien évidemment. Il a participé à toutes les patrouilles des glaciers depuis 1984, fait pas mal de ski alpinisme, de course à pied aussi, psychologue du sport. Romain Ducret, vous êtes aussi fondateur de l'Académie de coaching éthique, vous nous direz ce que c'est. Le virus, pour le coup, le virus de la montagne, c'est votre maman qui vous l'a donné, c'est vrai ?
Alors, c'est le virus de la montagne. Historiquement, je pense que mes grands-parents de montagne, mais c'est clair qu'à l'époque, les gens se déplaçaient très peu. Donc, mes grands-parents se promenaient tous les week-ends dans les prairies fribourgeoises et souvent, ils partaient à l'inconnu. Ils ne savaient même pas où ils dormaient. Ils essayaient de trouver un chalet d'alpage où ils pouvaient dormir. Et voilà, on a parlé du virus. C'est peut-être pas approprié aujourd'hui, mais le virus...
Il y a des bons virus.
Exactement, des bons virus. Le virus de la montagne a été transmis à ma maman et qui me l'a aussi transmis à moi. Et c'est comme ça qu'est née la passion pour la montagne.
Elle vous l'a transmis comment, concrètement, ce virus ?
Alors concrètement, moi je suis né dans une famille où mon papa était entraîneur de football et ma maman passionnée de montagne. Et évidemment, mon papa m'a mis un ballon de football très jeune entre les jambes et j'ai fait du football à un assez bon niveau. Mais j'avais quand même besoin de faire beaucoup de montagne à côté, donc j'allais régulièrement, voire même très souvent avec ma maman en montagne. Et des fois même, j'allais en montagne la journée, j'avais des entraînements de football la semaine, voire même des matchs. Donc c'était pas très compatible. Et à l'époque, je le disais pas à mes entraîneurs. Et après, ce qui a fait balancer les choses, c'est que durant les vacances d'été, c'est très vieux, lorsque j'étais au collège, mon papa me dit « Est-ce que tu veux venir avec moi à Zermatt ?» parce que je dois aller 2 jours à Zermatt pour le travail. Alors je lui ai dit « Ah oui, avec plaisir, je viens avec toi. » Et quand je suis arrivé à Zermatt, là, cette passion a grandi encore plus. Et elle a tellement grandi que quand je suis rentré de Zermatt après 2 jours, c'est la première fois peut-être que je voyais ces grandes montagnes, j'ai décidé, séance tenante, d'arrêter le football.
Vous avez lâché le ballon à ce moment-là ?
J'ai lâché le ballon à ce moment-là. Par contre, j'aime toujours le football. Je suis toujours le football à la télévision. Et des fois, même quand je vois des enfants qui jouent au football dans ma maison, j'ai plaisir d'échanger quelques ballons avec eux.
Mais pourtant, c'est pas tout à fait le même entraînement, la même physiologie, celle du footballeur et celle du skieur alpiniste, qui se rapproche plus du skieur, soit de compétition. C'est un mélange, en fait, de skieur de compétition et puis de coureur à pied, tandis que le footballeur a une physiologie, une musculature et un type d'entraînement bien particulier. Donc là, vous êtes un peu tiraillé quand même.
Là, j'étais tiraillé à l'époque. Hein. Lorsque je faisais vraiment du football de compétition, j'étais un peu tiraillé, puisque comme je l'ai dit, c'était pas du tout compatible au niveau musculaire et au niveau physique. Mais voilà, je l'ai fait jusqu'à peu près 18 ans. Et puis après, comme je l'ai dit, cette visite à Zermatt ne m'a pas fait réfléchir beaucoup. La passion de la montagne l'a nettement emporté. Et j'ai décidé d'arrêter le football et je n'ai jamais eu aucun regret.
Et le Cervin, vous l'avez gravi ?
Et le Cervin, je l'ai pas gravi, non.
Pas encore ? Pas encore. Pas encore, peut-être. Vos premières courses en montagne, vous vous en souvenez évidemment ?
Alors les premières courses en montagne, c'était vraiment des courses dans les prairies fribourgeoises. Ma maman avait un énorme respect de la montagne. Donc on a sillonné toutes les prairies fribourgeoises, les prairies bernoises, les prairies vaudoises. Et seulement après, on a commencé à sortir en vallée et à découvrir les hautes montagnes et d'abord à faire des montées en cabane, etc., etc. Et j'ai eu le plaisir de faire mon premier 4000 en 1978 au-dessus de Zermatt à la fin juin et je l'ai encore fait à ski. Et ce premier 4000 restera toujours pour moi un moment fantastique.
De quel sommet s'agissait-il ? Vous vous en souvenez ?
Alors en fait, c'était dans le massif du Mont-Rose, le Breithorn de Zermatt. Et à l'époque, il n'y avait absolument pas de téléphérique du petit Cervin.
Ah oui, il n'y avait pas de remontée, c'était plus difficile. Fallait monter à la force des mollets, là.
Il y avait des remontées jusqu'au ski d'été. Mais après, on l'avait fait fin juin, mais il y avait encore beaucoup de neige. Et on l'avait fait encore à ski à fin juin. Et le premier 4000, c'est toujours pour tout alpiniste un souvenir inoubliable.
Je confirme, absolument. Vous avez gravi plus de 120 sommets de plus de 4000 mètres et plusieurs milliers de sommets de plus de 3000 mètres. J'ai lu ça. Vous confirmez ces chiffres ?
C'est juste, oui, parce que je tiens quand même, je note toutes mes sorties en montagne. Donc, j'ai gravi effectivement 120 sommets de plus de 4000 mètres, et ce, uniquement dans les Alpes. Et je ne suis jamais sorti jusqu'à maintenant des Alpes, et des milliers de 3000 mètres, puisque je suis dès que j'ai un moment, je suis en montagne. Donc, plusieurs milliers de 3000, c'est exactement
donc,
ça.
Donc, il y en a que vous avez fait plusieurs fois, évidemment.
Alors, évidemment, il y en a que j'ai fait plusieurs fois, hein, mais... Par contre, une montagne, on pourrait la faire 30 fois, elle est chaque fois différente.
Oui, absolument. Et même les petites montagnes vous attirent, vous nous l'aviez dit en introduction de cette émission, vous retournez parfois dans vos préalpes fribourgeoises natales.
Ah mais bien sûr, les préalpes fribourgeoises, c'est un massif qui est magnifique. Au niveau de l'altitude, c'est pas très élevé, mais c'est des montagnes qui peuvent être très sauvages, très raides aussi. C'est des montagnes où il faut être extrêmement prudent, puisqu'il y a souvent un mélange de pierres et d'herbes. Et il y a des endroits où il n'y a pratiquement personne qui y passe, donc que j'y retourne fréquemment, malgré le fait que j'habite... À l'heure actuelle, à Zinald, dans ce magnifique Val d'Anivier, tout près des glaciers. Mais c'est vrai que j'y suis pas toujours, puisque avec ma profession, je suis un véritable nomade, donc je voyage beaucoup.
Alors venons-en à votre profession, fondateur, alors psychologue du sport et fondateur de l'Académie de coaching éthique. Dites-nous ce que c'est.
Alors peut-être déjà historiquement, moi j'ai plutôt au départ une formation commerciale, mais à l'époque j'avais déjà hésité de faire la formation de ce qu'on appelait l'école normale pour en devenir enseignant, parce que je pense que j'avais déjà cette fibre humaine lors de mon adolescence. Et après j'ai plutôt fait des études commerciales et j'ai exercé des postes de cadre et de membre dirigeant d'abord dans le secteur bancaire. Et une fois... Lorsque je travaillais encore au Crédit Suisse et que j'étais cadre supérieur, ils m'ont demandé de m'occuper de conflits. Et là, peut-être, cette flamme pour l'être humain s'est rallumée, parce que je leur avais dit, moi, j'ai pas la formation pour vraiment m'impliquer dans la résolution des conflits. Et puis, ils m'avaient aussi confié un mandat d'étudier les retombées de la formation continue. Et là, j'avais vu que les retombées à l'époque étaient faibles. Et puis, il m'avait dit, mais ce serait à vous de nous proposer des solutions. Et c'est là que j'ai fait des recherches. Et j'étais tombé à l'époque sur un livre qui était très abstrait sur le coaching. Et j'avais fait une expérience pilote qui avait apporté beaucoup de résultats. Et depuis ce moment-là, c'est là que ça m'a motivé d'entreprendre des nouvelles études en psychologie. Et après, je me suis spécialisé en coaching.
Ah, et de banquier, vous partez vers les rivages de la psychologie. Vous êtes un peu pionnier, là. C'est le début de ce type de travail sur l'être humain, j'imagine.
Alors, en fait, le coaching est une méthode ancestrale, sauf que, et je le dis absolument pas négativement, les Américains souvent ont l'art de prendre quelque chose qui a toujours existé et de rebaptiser.
Oui, ils ont inventé de nouveaux sports ces 20 dernières années, comme le walking et le running, pareil.
Exactement, oui, exactement, oui.
C'est un peu la même
par
chose.
Contre, ouais. Par contre, le coaching, et moi je suis président de la Swiss Ethics Coaching Association, et un des buts de cette association, c'est aussi de lutter contre l'utilisation abusive de ce mot, puisque ce mot, malheureusement, encore à l'heure actuelle, est utilisé à toutes les sauces.
Alors, quand il s'agit de coaching, on ne parle pas seulement, ou peut-être pas du tout, de coaching sportif, là, en l'occurrence, ou un peu quand même.
Alors, bien sûr, le coaching sportif existe, puisque les entraîneurs, sur leur carte de visite, ils ont presque tous la dénomination head coach, donc c'est tout à fait juste, et ce qu'ils font, c'est tout à fait approprié, sauf que la méthode du coaching, l'accompagnement de la méthode du coaching n'a absolument rien à voir avec ce que font les entraîneurs sportifs. Par contre, pourquoi ça avait été rebaptisé coaching, to coach, parce qu'avec la méthode du coaching, on aide les personnes à s'entraîner par rapport à ce qu'elles doivent ou ce qu'elles veulent développer, ou on les aide à s'entraîner par rapport à un problème qu'elles aimeraient résoudre.
Vous dites vous inspirer des philosophes grecs, c'est vrai ?
En fait, oui. Il faut bien dire que Socrate a été l'initiateur du coaching par la maïeutique. Et la maïeutique, du mot grec qui voulait dire faire accoucher, Et ça, c'était vraiment la naissance du coaching. Et pour moi, Socrate, ça reste toujours un grand maître, puisque la maïeutique a traversé tous les siècles et a apporté des résultats tellement merveilleux.
Vous le relisez parfois, comme ça, le soir, en buvant une tisane ou un bon verre de rouge, je ne sais pas.
Les deux, oui.
Les deux.
Donc, les deux. C'est juste que je me penche quand même assez souvent dans les lectures des philosophes, parce que je m'intéresse, j'ai pas du tout une formation en philosophie, mais je m'intéresse beaucoup à la philosophie. Et du reste, quand on est en montagne, sans s'en rendre compte, on fait souvent de la philosophie.
Ah, dites-moi, alors expliquez-moi un peu plus, c'est le fait de vous révéler à vous-même, histoire d'être plus affûté pour être en face de l'autre. Comment ça se passe? Quel est le mécanisme qui est à l'œuvre chez vous quand vous êtes en montagne?
Alors, j'ai toujours en montagne, c'est un double voyage. Il y a le voyage vers le sommet, ça c'est le premier voyage, et après il y a le voyage qui est souvent plus inconscient, le voyage à l'intérieur de soi-même, où sans se rendre compte, on pratique de la méditation et on philosophe. C'est-à-dire qu'on pense à beaucoup de choses, on approfondit les pensées, mais elles peuvent être conscientes ou inconscientes. Et quelquefois, c'est aussi ça qui nous aide de gérer aussi la souffrance en montagne.
Vous souffrez parfois aussi quand vous êtes, par exemple, face au chronomètre, il y a une souffrance réelle?
Ah, mais bien sûr, et je le dis toujours, pour être lié quelquefois au chronomètre ou pour faire des enchaînements en montagne, il faut aussi aimer la souffrance.
Et vous l'aimez?
Et oui, je l'aime, je ne l'aimerais pas forcément à toutes les sorties. C'est pour ça que je fais beaucoup de sorties en endurance, absolument sans regarder la montre, avec un rythme cardiaque élevé, mais quelquefois, ça nous fait plaisir de souffrir, puisque c'est comme ça aussi qu'on se découvre mieux.
Romain Ducret, à quoi sert, je ne sais pas si c'est le bon verbe, à quoi est utile l'activité physique, peut-être à haute dose, comme le sport de compétition, le sport tout court? Quand on dit ou quand diraient les philosophes comme Socrate, Sénèque ou Platon?
Je pense que beaucoup de philosophes ont mis en évidence l'importance du mouvement et la nature. Et le sport pratiqué d'autant plus en nature, dans la nature, est merveilleux. Et du reste, je pense qu'à l'heure actuelle, pratiquement tous les milieux médicaux et psychologiques sont en adéquation avec ça.
Alors, évidemment, pour ce côté un peu plus sombre, mais le sport n'est pas toujours propre dès qu'il y a performance. L'humain cherche aussi des moyens de l'améliorer, peut-être de contourner certaines choses. Vous me voyez venir. On va tout de suite réécouter une très récente archive, Romain Ducret. C'est une archive qui date d'il y a quelques semaines. C'est l'actuel président des Trophées du Muvran et ancien commandant de la patrouille des glaciers, Max Comtesse, qui nous avait fait le plaisir d'être l'invité d'Altitude et qui s'exprimait sur un sujet bien délicat. On le réécoute et on commente ensuite.
Les contrôles antidopage, on en fait. Au niveau des équipes, des professionnels, au niveau de la fédération, l'IFFS, pourquoi pas aussi prendre des gens de tous bords? C'est ce que nous avons fait lorsque, y compris en 18, des contrôles antidopage ont été effectués.
Et combien de personnes ont été prises? Aucune, à ma connaissance.
C'est un chiffre qui reste confidentiel.
Ah, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi?
Parce qu'il en va de la sphère privée des personnes.
Parce qu'en général, dans le monde du sport, soit le cyclisme ou d'autres sports, les contrôles sont portés à la connaissance du grand public. Là, non.
Oui, on les étale et puis ça fait plus de tort au sport en lui-même, sans parler de l'athlète lui-même. Et on a fait ces contrôles. Le résultat est sorti. Il a été uniquement transmis à mon niveau et nous avions décidé que ce ne serait pas communiqué.
Alors, sans donner le nom, est-ce que vous pouvez donner peut-être le nombre de cas qui auraient été éventuellement positifs ou vous ne le pouvez pas même 2 ans après?
Non, je ne dirais, je peux pas le dire. J'avais promis et puis je maintiens cette promesse que ça ne sera pas divulgué.
Romain Ducret, vous êtes toujours avec nous. Vous avez entendu ces propos de Max Comtesse. Qu'en dites-vous? Est-ce qu'il faudrait quand même révéler, si ce n'est le nom des personnes qui ont été attrapées, mais en tout cas le fait qu'il y en ait ou le nombre de cas? Enfin, que dit le coach, que dit le psychologue du sport sur ce cas épineux qui est celui du dopage dans le sport et plus spécifiquement dans le ski alpinisme?
Bon, vous imaginez bien, en tant que psychologue du sport, j'accompagne des sportifs d'élite professionnelle et quelquefois on aborde ce thème-là en toute transparence. Et évidemment, nous, c'est pas notre sujet, puisque en tant que préparateur mental, on aide les gens, les sportifs, à améliorer leur bien-être et évidemment leur performance par le mental. Donc pour nous, le dopage, c'est quelque chose qui nous concerne pas. Moi, personnellement, je trouve que c'est communiquer les normes, je ne sais pas si c'est une bonne chose, mais de communiquer le nombre de cas qui existent, moi je pense que c'est une bonne chose, puisque c'est de nouveau, c'est une affaire nouveau de sensibilisation pour tout le monde, parce qu'il ne faut pas se faire d'illusions. Du dopage, il y en a beaucoup, et même dans le sport de compétition, pas forcément de haut niveau. Et je pense que plus on informe et plus on peut sensibiliser, plus on maximise les chances que le dopage va diminuer.
Il y aurait une forme de prévention de la part de la patrouille des glaciers, non pas de donner les noms, mais de dire voilà, il y a eu tant de cas cette année, etc. Vous souhaiteriez peut-être que cette prévention-là existe?
Ben, au niveau de la patrouille des glaciers, il y a quand même bien la prévention, puisque dans les directives, il y a quand même un texte à ce sujet-là. Donc je pense que là, la patrouille des glaciers fait très bien son travail. Et les courses de ski alpinisme, de compétition en général, le font aussi très très bien. Sauf qu'après les contrôles, je trouve que, encore une fois, je ne dis pas qu'il faut forcément communiquer les noms, mais de dire qu'il y a peut-être une ou deux ou trois personnes qui ont été prises pour dopage, moi je trouve que ce serait une information qui serait utile pour tout le monde.
Ce sont des nouvelles ou des cas qui sont parvenus à vos oreilles de compétiteurs ces dernières années ou durant vos plus de 30 ans de pratique, Romain Ducret?
Ah oui, mais bien sûr, j'ai beaucoup de cas qui m'ont été annoncés. Alors après, moi, je reste toujours prudent parce que je prends jamais la première information comme ça. Mais je sais que dans le ski alpinisme de compétition, il doit certainement aussi y avoir du dopage, même si quelquefois, c'est pas forcément du dopage très sophistiqué. Mais en fait, ça peut être des fois une surconsommation d'antidouleurs ou comme ça. Et évidemment, c'est du dopage.
Ouais. Bah oui, parce que pousser le seuil de la douleur permet aussi d'aller plus loin dans la performance.
Exactement. Moi, personnellement, j'ai jamais fait la compétition pour me battre par rapport aux autres. J'ai plutôt fait la compétition pour me battre par rapport à moi-même. Et historiquement, nous, avant chaque départ, avant la patrouille des glaciers, nous, notre dopage, c'était avec le repas du soir, de se boire chacun et de se souhaiter une bonne course et de boire chacun un verre de pinot noir avant le départ de la course, lors du souper.
Et ça marche.
Et ça marchait, oui.
Vive le pinot noir, voilà. Dont il doit se consommer un peu plus de litres depuis le début du semi-confinement. Avec modération, évidemment, on n'est pas là pour faire du prosélytisme, mais pour soutenir nos amis vignerons. Romain Ducret, on va se retrouver, bah justement, pour évoquer la notion de performance dans la Grèce antique, on va se retrouver dans un instant, juste après notre Stéphane Escher national.
Que faut-il pour te satisfaire. Monsieur, je ne sais pas. Monsieur, je ne sais pas. Monsieur, je ne sais pas trop.
Monsieur, je ne sais pas trop, Stéphane Escher, 17h37 sur la première. Vous êtes dans Altitude avec Romain Ducret, montagnard et amoureux de la montagne, et psychologue du sport, fondateur de l'Académie de coaching éthique. On va, pour évoquer cette notion de performance avec vous, on va écouter tout de suite une petite archive tirée d'un reportage de nos confrères de France 5 consacré aux Jeux antiques.
Décoder l'image, c'est ce que fait l'archéologie expérimentale, une discipline qui teste en conditions réelles les gestes des sportifs du passé. L'épreuve de vitesse, bien que presque deux fois plus longue, c'est l'ancêtre de notre célèbre épreuve du 100 mètres. Quelles pouvaient être les performances des sportifs de l'époque alors qu'ils couraient pieds nus ?
Les Grecs ne cherchent pas à courir le plus vite possible, ils cherchent à gagner l'épreuve. Il ne faut pas imaginer ça comme une course au record. Nous, aujourd'hui, on est dans la course à la performance, au record. Tandis que dans l'Antiquité, c'est juste la victoire qui compte. Donc, on peut gagner en mettant un temps très très long. Donc, c'est très difficile, c'est même impossible d'imaginer une comparaison.
Voilà, c'est toute la notion de relatif et d'absolu. Donc, dans la Grèce antique, lors des premiers Jeux olympiques, c'était juste la victoire qui comptait. Romain Ducret, quel est votre rapport à la notion de performance ? D'abord, quelle en est votre définition personnelle ?
La performance, c'est comme c'était mentionné dans ce petit reportage, est-ce que la performance, est-ce qu'on la vise par rapport aux autres ? Est-ce qu'on la vise par rapport à soi ? Elle peut prendre des aspects très 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 différents.
Alors pour vous, c'est quoi, par exemple ? C'est un rendez-vous avec vous-même, de sortie en sortie, d'année en année, ou tous les deux ans pour cette course comme la patrouille des glaciers ? Comment vous la vivez ?
C'est un rendez-vous avec moi-même, mais aussi avec mes amis de la montagne, puisqu'on fait chaque année un ou deux défis, donc un à l'été. Et là, le premier objectif, c'est de partager un très 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 long moment ensemble, lié à ce qu'on appelle, nous, une performance, mais par rapport à notre niveau d'étroit, puisqu'on le fait toujours à trois.
Et alors, par rapport à votre niveau, c'est quoi ? Vous faites quand même des choses un peu dingues, si vous me passez l'expression. Vous partez à vélo, comme ça, faire des centaines de kilomètres pour rejoindre le pied d'une montagne, puis une fois que vous êtes redescendu, vous reprenez votre vélo. Vous avez fait ça plusieurs fois, non ?
Oui, c'est juste, mais on le fait toujours pour nous-mêmes, on le communique pas, et puis on sait pas quel est le degré de performance. C'est vrai qu'on a eu parti du canton de Fribourg en vélo, jusqu'à Zermatt, et puis là, on faisait une petite pause, on mangeait une assiette de spaghettis, souvent on buvait quand même une petite bière, et puis.
Décidément.
On se changeait en alpiniste et on faisait un 4000 mètres directement, en partant de nuit. Et souvent, quand on discutait les trois, lorsqu'on réussit une telle sortie, on se disait, par exemple, si c'était un Kylian Jornet qui faisait ça, ou si c'était Troyer qui avait le record, la patrouille des glaciers, combien de temps eux...
Florian, pas Jean. Hein.
Florian, exactement, Florian, oui. Florian, si jamais il nous écoute, que je salue au passage, puisque je l'avais eu dans le cadre de la Fédération suisse de ski alpinisme comme cadet déjà à l'époque. Donc, vous voyez que le temps passe.
Vos méthodes ont porté parce qu'il a accumulé quelques très bons résultats.
Exactement, oui. Et donc voilà, la performance, c'est toujours par rapport à nous-mêmes. Et je me prépare aussi dans ma tête, en prenant quelques années, peut-être maintenant un peu plus qu'autrefois, je me dis, lorsque j'aurai un peu moins de force, je suis sûr que, évidemment, les objectifs vont devenir beaucoup plus bas, mais je vais les apprécier autant.
Vous faisiez allusion à la figure très connue, c'est peut-être la plus connue du domaine de la montagne de Kilian Jornet, c'est une superstar, même ceux qui ne connaissent pas la montagne connaissent son nom. Est-ce qu'il vous inspire? Alors lui est véritablement en course permanente contre le chronomètre, mais c'est aussi quelqu'un de très profond, qui lit beaucoup de livres, qui lit des philosophes et qui s'interroge peut-être parfois sur la futilité de cette quête de vitesse et de la performance. Comment vous voyez cette figure, celle de Kilian Jornet?
J'ai énormément d'admiration pour des gens comme Kilian Jornet ou pour aussi l'alpiniste suisse qui fait aussi des performances magnifiques, Egloff, qui a du reste double nationalité. Je crois qu'il a son papa ou sa maman qui vient d'Équateur et lui, il est suisse.
Absolument. Son prénom m'échappe, mais c'est quelqu'un dont on ne parle pas assez. Vous avez raison. Vous avez raison de parler de lui. On va très vite retrouver son prénom. Honte à moi, mais c'est quelqu'un qui est quasiment aussi fort, voire même dans certains domaines un peu plus fort que Kilian Jornet.
Du reste, il y a eu récemment un peu de polémique, mais encore une fois, on ne sait pas d'où elle vient, on ne sait pas si elle est réelle. Est-ce que Kilian Jornet serait un peu jaloux des performances de Egloff? Mais on ne sait pas, donc je reste toujours prudent par rapport à ça. Mais évidemment, j'admirais aussi énormément quelqu'un comme Uli Steck. Ces gens-là, ce qu'ils sont capables de faire, on se dit que c'est inimaginable. Et lorsqu'ils sont interrogés, ces gens-là, on voit qu'ils le font pas que pour la performance. Ils le font d'abord par leur passion intime.
Donc derrière le chronomètre, derrière le fait de gravir la face nord de l'Eiger en à peine un peu plus de 2 heures, ou de courir l'Everest aller-retour en 20 ou 30 heures comme Kilian Jornet, il y a une dimension spirituelle, une dimension philosophique derrière le chronomètre.
Je suis entièrement convaincu de ça. Et du reste, voyez, les objectifs de performance en montagne, quelquefois ils sont critiqués. Oui, mais ces gens-là ne donnent pas des bons exemples. Mais franchement, quand on pense les gens qui avaient fait, Walter Bonatti qui avait fait la première fois la face nord du Cervin en hivernal, c'était aussi incroyable. Et on pouvait déjà dire à cette époque et bien avant aussi que peut-être ces gens-là, par rapport à l'époque, ils ne donnaient pas le bon exemple. Ouais. Mais je pense que c'est pas tout à fait approprié de parler comme ça.
Non, mais vous avez raison de relativiser. J'ai retrouvé son nom parce qu'évidemment on a une petite prothèse numérique pas très loin des doigts. C'est Karl Egloff, l'homme qui court plus vite que Kilian. Voilà, Karl Egloff. Peut-être qu'on fera une émission sur lui. Tiens, vous me soufflez comme ça une idée de reportage et de thématique. On a longtemps, ces 10 ou 15 dernières années, opposé les coureurs, ceux qu'on appelle les collants pipettes, donc ceux qui vont avec un matériel très léger parcourir les montagnes pour s'entraîner pour des courses. On les a opposés aux vrais montagnards. Moi-même qui me situais dans une de ces deux catégories, il était l'objet de colibets de la part de l'autre catégorie. Enfin, vous avez dû vivre ça aussi, vous, Romain Ducret. Est-ce que cette opposition tient toujours?
Il faut dire qu'elle a diminué. Néanmoins, elle existe toujours un peu. Et je ne cache pas que quelquefois... Lorsque nous allons nous entraîner, par exemple pour la patrouille, nous avons beaucoup de respect. Par exemple, lorsque nous dépassons des gens, nous sortons évidemment à l'avance de la trace pour se rabattre dans la trace suffisamment loin pour pas les stresser. Mais quelquefois, on a entendu des commentaires qui étaient un peu désobligeants. Et je me rappelle sur un sommet dans le massif du Saint-Bernard, on s'est fait attaquer en nous disant « on dirait des cyclistes et pas des montagnards ». Et c'est vrai que ça existe toujours un peu dans le monde de la montagne. Et des fois, je réfléchis à ça. Je me dis, si vous allez faire une piste Vita et puis qu'il y a quelqu'un qui va plus vite que vous, là, il n'y a pas ce genre de critique. Ou quand vous allez vous promener en vélo et qu'il y a quelqu'un qui vous dépasse, il n'y a pas ce genre de commentaire. Et je me suis souvent posé la question, pourquoi ça existe en montagne? Et il y a toujours cette fausse croyance qu'il faut aller lentement pour admirer. Je suis convaincu qu'en allant vite, on peut tout aussi admirer la montagne qu'en allant lentement. Et n'oublions jamais qu'en haute montagne, le facteur vitesse est le premier facteur de sécurité.
Bien sûr. Voilà, vous réconciliez les deux mondes. Vous êtes un grand pacificateur, Romain Ducret, cet après-midi dans Altitude. 17h45, il est grand temps d'aller rejoindre notre chroniqueuse, en direct aussi, par téléphone aussi, Joëlle Rebeutet. Bonjour.
Bonjour Simon.
Comment
bonjour.
Allez-vous?
Mais je vais très bien, merci Simon, j'espère que vous aussi.
Jusque-là, ça va pas trop mal. Vous êtes où, dites-moi Joëlle?
Alors moi, je fais une petite sortie en peau de phoque. Là, je suis sur le glacier du Théodule. Il fait grand beau, il n'y a pas un chat.
Et le confinement dans tout ça, Joëlle, vous en êtes où par rapport à ça?
Le confinement. Simon, ne jouez pas les rabat-joie avec ces conditions. Vous auriez pu sauter dans le premier train et me rejoindre. J'arrive justement au refuge des guides, là, à Testa Grigia. On se serait cuisiné, ni vu ni connu, des spaghettis al ragoût, tiramisu, café et grappa en dessert. Tout en préparant notre sortie de demain en direction du Mont Rose. Plutôt tentant comme programme, non?
Non.
Ouais, c'est en effet le point de vue de nombreuses organisations sportives et autres associations qui ont la pratique des sports de montagne dans le cœur. Elles ont rappelé encore et encore à leurs membres de respecter les règles temporaires pour lutter contre le Covid-19. Le club alpin suisse, section des Diablerets, a par exemple publié il y a 3 jours sur Instagram une très jolie photo d'un skieur de randonnée pas loin de la Lütschenpass Hütte, mais ils ont rajouté le hashtag discipline et stay at home. Et oui, l'idée est bien de remettre ses envies à plus tard. Moi aussi, j'ai suivi les consignes, je ne suis pas sur les pistes. Mais j'avoue que l'idée d'aller en montagne m'a évidemment traversé l'esprit. Et vous êtes nombreux à y avoir également pensé, n'est-ce pas? N'est-ce pas, Simon? Et vous êtes aussi nombreux à avoir pris ce confinement comme la possibilité de vous réinventer. Tu montais en station pour les fêtes de Pâques, incomparable au bonheur de rester sur le balcon. Tu partais de bon matin à avaler du dénivelé pendant des heures, seul au monde. Ce n'est rien par rapport au petit tour de quartier que tu peux faire à la découverte de nouveaux horizons. Sans parler de l'après-ski remplacé joyeusement par l'apéro Skype quand la connexion n'est pas trop mauvaise.
Est-ce que je ne sentirai pas comme ça poindre une petite pointe d'ironie dans votre voix, Joëlle?
Oui, c'est vrai, mais finalement, soyons francs, ça n'a quand même pas été si difficile de changer nos habitudes. Et pourtant, on est parti de loin. Pour moi, le premier choc a été l'annulation de la fameuse course de la Maya. C'était vendredi 28 février. L'information était à peine croyable sur le compte Facebook de la Maya. Les commentaires allaient de la colère à l'indignation. À ce moment-là, on était vraiment peu à comprendre cette décision et on était vraiment peu à imaginer ce qui nous attendait.
Oui, personne ne pouvait vraiment l'imaginer. Quelques jours plus tard, après cette annulation de la Maya, le confinement à la sauce helvétique, ce semi-confinement a été décrété pendant que nos voisins français entraient, eux, alors véritablement en guerre, selon les mots du président français, en guerre contre le virus.
Exactement, avec les conséquences qu'on connaît aussi sur le sport en montagne et des règles assez claires à respecter, rester à la maison. Ce week-end de Pâques, encore, les autorités politiques et touristiques ont demandé à la population et aux propriétaires de résidences secondaires de ne pas se rendre en station. En Valais, la police cantonale et les professionnels des secours ont appelé à la responsabilité des sportifs, éviter le ski, le parapente et l'alpinisme. Et connaissant bien la mentalité de certains skieurs de randonnée, plusieurs communes ont même interdit la pratique des sports de montagne sur leur territoire. Pour nos amis français, la montagne est simplement interdite car les randonnées en montagne ne sont pas reconnues comme une activité à proximité du domicile.
Oui, Joëlle, des recommandations ou des interdictions qui n'ont pas empêché quelques sorties tout de même.
Oui, alors il y a eu ces 4 rigolos, je me permets de les appeler comme ça, à la Clusa, qui ont enclenché un téléski pour profiter de la piste déserte avant de se faire pincer par les gendarmes. C'était quand même un peu gros là, les gars. Moins drôle, des accidents et des morts en montagne sont à déplorer pendant les mois de mars et avril. Un jeune skieur de randonnée de 24 ans s'est tué dans le massif du Mont Blanc il y a 6 jours. Et les Suisses ne sont pas en reste. 2 personnes blessées après une chute dans une région montagneuse du Tessin près de Bellinzone. Et un randonneur grièvement blessé en chutant du sommet du Fahnenstock dans le canton de Glaris. Mais finalement, et heureusement, ces cas sont plutôt rares. Je n'en ai pas découvert beaucoup plus dans la rubrique des faits divers suisses ou français. On comprend que dans l'ensemble, les règles sont plutôt bien suivies. Le compte Twitter du PGHM Secours en montagne notait il y a quelques jours que l'activité de secours était à zéro, tout en précisant que les contrôles avaient toujours lieu vis-à-vis de certains téméraires. En réalité, on ne saura jamais combien de téméraires, justement, ont mis les pots. Il y en a eu, c'est certain. Mais pour une fois, les réseaux sociaux n'ont pas relayé ces belles photos qu'on prend depuis tel ou tel sommet. En tous les cas, en apparence, le message semble avoir été plutôt bien suivi en montagne. Par contre, Simon, vous me promettez, hein, la sortie en peau de phoque à Testa Grigia et les spaghettis à la ragout, on remet ça à l'année prochaine, d'accord ?
Le rendez-vous est pris avec joie, avec plaisir. Merci beaucoup, Joël. Et restez à la maison, voilà.
Oui, exactement.
Retournez en vous-même et regardez vos photos de montagne. Merci,
ouais,
Joël. Romain Ducret, c'est pas trop dur de rester à la maison ?
Évidemment, c'est très difficile. Par contre, il faut essayer de modifier sa pensée puis se dire... ça finira bientôt, et lorsqu'on pourra ressortir activement en montagne, on aura encore plus de plaisir.
Vous avez été regardé dans d'anciennes photos de vous en montagne, peut-être l'occasion de se plonger effectivement dans votre passé.
Alors je ne suis pas très photo, donc je ne me suis pas replongé dans ce qu'on appelle l'album photo. Par contre, je dis toujours, moi en montagne, les photos je les fais dans ma tête, et je les revisite souvent dans ma tête.
Et là vous avez quelques éclairs qui ont jailli depuis ces semaines de semi-confinement?
Ben, en entendant, par exemple, la chronique de votre collègue, là, elle me fait vraiment envie, hein, quand elle parle du Théodule et de Testa Grigia, puisque j'y ai passé des heures et des heures, aussi avec ma maman dans cette région-là. Et le Théodule et cette région-là, c'est historiquement toujours ma première sortie à peau de phoque au mois d'octobre, donc j'adore cette région.
Eh ben, voyez, le hasard fait bien les choses et on a l'odeur des spaghettis dans les naseaux, là, comme ça. On vous retrouve pour les dernières minutes de cette émission, Romain Ducret, juste après un de nos héros. One day. Heroes de David Bowie, un salut à tous les héros du quotidien et il n'en manque pas en ces temps de pandémie, notamment tout ce qu'on appelle les professions exposées. La musique dans votre vie, puisqu'on a diffusé quelques très beaux titres là, Romain Ducret, vous en écoutez quand vous entraînez?
Alors quand je m'entraîne, je n'écoute pas la musique, je respecte ceux qui le font. Par contre, il y a tellement des bruits qui sont tellement merveilleux en montagne, le bruit du vent, le bruit d'un ruisseau, le bruit d'un sérac qui lâche, comme ça, que c'est bien plus beau que la musique. Par contre, dans la vie de tous les jours, j'adore la musique et en me levant le matin, je mets la musique. J'adore écouter de la musique aussi dans ma voiture. C'est quelque chose que j'aime beaucoup.
Qu'est-ce que vous écoutez?
Alors là, j'ai des goûts qui sont très éclectiques pour la musique. Par contre, la musique dite classique ne m'a jamais fortement inspiré, mais sinon, j'écoute toutes sortes de musiques.
Il faut plutôt une guitare électrique ou une basse ou un instrument.
Ouais, c'est égal, pas forcément, mais j'ai des goûts très éclectiques.
Vous parliez des sons de la nature. On a l'impression qu'on les entend encore mieux qu'avant maintenant, depuis ce semi-ralentissement ou ce ralentissement du monde quand on se balade, parce qu'on peut encore se balader un peu en forêt, dans les sous-bois. On a l'impression qu'on entend plus fort les oiseaux, peut-être des bruits qu'on n'entendait pas avant. C'est aussi votre impression?
Alors c'est vrai qu'on entend mieux les bruits en plaine, par contre en montagne je pense pas qu'on les entendrait beaucoup mieux. Puisque...
À Zinal, il y a moins de bruits, on entend plus de choses qu'avant, non, de la nature?
Vous savez, à Zinal, ce que j'apprécie beaucoup, comme dans beaucoup de villages de haute montagne, c'est ce sous-bruit des ruisseaux qui coulent.
Ouais. Et là, effectivement, c'est la saison. Vous allez repartir pour la patrouille des glaciers dans 2 ans. Vous vous êtes déjà fixé ce rendez-vous dans votre tête?
Alors, je dis toujours, il faut voir comment ça se passe au niveau de la santé et tout. J'ai déjà été sollicité pour faire une équipe pour 2022. C'est en discussion. Et pourquoi pas, mais ça n'a jamais été mon objectif, pourquoi pas faire cette 20e patrouille des glaciers en 2022. C'est quelque chose qui va probablement se faire si ma santé le permet.
Bah, si c'est comme maintenant, vous serez encore meilleur en 2022 qu'en 2020, non?
Pourquoi pas?
Si la courbe suit sa trace. Dernière question qui est rituelle, Romain Ducret, votre montagne à vous, votre montagne préférée, celle qui vous inspire le plus, où est-elle? Quelle est-elle?
Si vous me permettez, peut-être avant ça, je profite de l'occasion pour tous mes amis de la montagne les saluer s'ils nous écoutent, et puis aussi de remercier mon frère qui m'a appris à skier, je pense que lorsque j'avais 3 et 4 ans, et il a toujours assuré la logistique depuis toutes les patrouilles des glaciers depuis 1984.
Je vous presse un peu parce qu'il nous reste 15 secondes.
Oui, alors ma montagne préférée, c'est toujours très difficile, et je vais faire une liaison à mon premier 4000, le Brighton des Zermatt.
Ben voilà, magnifique réponse. Tout de bon pour vous, Romain Ducret. Merci d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup, Simon Montadoré. Je vous souhaite des bonnes fêtes de Pâques et je salue tout le monde à la radio ce soir.
À bientôt.
À bientôt. Merci.
Infotrafic RTS.
Avec AXA, votre assurance auto et son drive partner aux fonctions intelligentes, AXA.ch.
Eh bien, la charge de trafic est faible sur les routes de Suisse. Aucune perturbation n'est signalée.
Infotrafic RTS. En collaboration avec les CFF et le TCS.
Merci à Antonin Barque, officier à la régie. Merci à ma complice Mallory Lang qui m'a aidé à préparer cette émission. À la réalisation Didier Rossa, à la programmation musicale François Piton. Au plaisir de vous retrouver dimanche prochain, 17h, en direct, pour une nouvelle émission.
La première vous offre l'heure.
Il est très exactement 18h sur la première. Excellente soirée à toutes et à tous. C'est Forum.